Antoine Mathieu, chapitre 20. Ce fut un jeudi, le jour resta gravé dans son esprit, qu'Antoine entra en prison. On l'introduisit au greffe, où un commis inscrivit sur un registre son nom, son ordre d'écrou, son signalement, sa hauteur mesurée à une toise qui se trouvait là. Du greffe, il fut conduit à la salle des bains. Il dut se dépouiller de ses vêtements, qu'on empaqueta et mit dans un coin, et revêtir le costume de toile grise de la prison. Il mit des pantalons, une camisole, et se couvrit la tête du bonnet percé de deux trous pour les yeux, sous lequel les prisonniers sont tenus de cacher leur visage lorsqu'ils traversent les corridors. Un gardien le mena ensuite à travers la grande halle sur laquelle s'ouvrent les portes des cellules et que balayaient des détenus encapuchonnés, au numéro 47. C'était le numéro qui lui était assigné. On le voyait reproduit sur chaque pièce de son costume. Peu d'occupations sont possibles dans l'intérieur d'une cellule. Antoine n'était ni tailleur, ni cordonnier. On l'employa à coller des sacs de papier. Une maison de la ville les fournissait tout pliés. Il ne restait qu'à enduire d'une bouillie de farine et d'eau les rebords, et elle les reprenait une fois confectionnés. Chaque matin, on apportait au houilleur un monceau de ses sacs avec la bouillie nécessaire. Il les rendait le soir terminés. Sa besogne n'était interrompue que par les repas, écuelle de soupe rapidement avalée, et par la promenade d'une heure entre 8 et 9 heures du matin, s'il est permis d'appeler promenade le mouvement de va-et-vient semblable à celui d'un faux vancage auquel se livre le prisonnier dans son préau spécial de 3 mètres sur 5, enserré de murs des deux côtés qui touchent au préau voisin. Les jours se passaient avec une lenteur énervante, tous pareils l'un à l'autre, sans que rien vînt jamais en changer les monotones dispositions. Antoine accomplissait son travail machinalement, ainsi que fait un chien attelé à un tournebroche. Il ne pensait point. La solitude de la cellule, à laquelle des vitres opaques interdisent toute vue sur l'extérieur, et qui n'offre au regard, pendant les longues, les éternelles heures de la journée, que ses murs nus, l'hébétait. Le fonctionnement du cerveau demande, plus que celui de tout autre organe, un apprentissage et des exercices préparatoires. On peut agiter les bras au commandement, on ne médite point par ordre. Il vivait dans une sorte de torpeur animale. Il avait besoin d'efforts pour compter le nombre de jours écoulés depuis son entrée. Les ébauches de réflexion qui apparaissaient à sa cervelle ne se dessinaient qu'incomplètement et s'effaçaient bientôt dans le vide. Au milieu de ce néant, une seule idée se formulait nette, claire, douloureuse, et revenait souvent avec une lucidité de plus en plus aiguë. C'était celle de la misère dans laquelle se débattaient Catherine et le petit Pierre. Un jour par semaine, ceux-ci lui rendaient visite au parloir, en présence d'un gardien. La visite durait une demi-heure, presque rien ne se disait, le gardien les gênait. À l'une des premières entrevues, Antoine avait demandé « Comment vivez-vous ? » « J'ai vendu une des chaises, j'ai mis au monde-piété vos habits, ceux à moi dont je ne me servais pas. J'ai gagné hier 1 franc en aidant à décharger un bateau de tuiles. Jusqu'à présent, le petit Pierre et la vieille ont eu du pain tous les jours. Et vous ? » ?»« Moi aussi, à peu près. D'ailleurs, je mange bien des pommes de terre sans pain. » « Ma pauvre femme !» avait dit Antoine presque tout bas, de façon qu'on l'entendit à peine. À ce moment, le gardien était intervenu, s'écriant « La demi-heure est finie !» et avait interrompu la conversation. À l'entrevue suivante, Catherine avait annoncé qu'elle était devenue botteresse. Elle espérait sortir d'embarras, avait-elle ajouté d'un ton qu'elle s'efforçait de rendre assurée. On désigne, sous le nom de botteresse, dans le pays de Liège, des femmes qui, une hotte sur le dos, font l'office de commissionnaires, soit entre la ville et les villages environnants, soit dans l'intérieur de la ville. Ce sont elles aussi qui pétrissent de leurs pieds la pâte formée de houille menue et de terre glaise dont se confectionnent des boulets employés comme combustible. Rude travail que ce pétrissage. La houille s'étend à terre, sur la couche de houille on jette une couche de terre glaise, le tout est arrosé d'eau, et les femmes, chaussées de lourds sabots, piétinent cette boue jusqu'à ce que la pâte soit liée. C'est à cette dernière besogne que se résignait Catherine. De grand matin, elle se rendait sur la place Saint-Lambert, au coin de la rue Gérardry, et là, le dos sous la hotte, dont les sangles se croisent sur la poitrine et compriment les seins, elle attendait la pratique avec d'autres botteresses de la ville. Mais à ce métier, on ne gagne point gros. Souvent, la clientèle fait défaut. Il y a de nombreuses journées de chômage. Aussi, Catherine continuait-elle à manger fréquemment, pour toute nourriture, des pommes de terre sans pain. Antoine ne le comprenait que trop. Après chaque visite de sa femme, bien que les époux, d'un accord tacite, évitassent de s'entretenir de ce sujet, il rentrait dans sa cellule plus sombre, plus désespéré. Ce qui le tourmentait surtout, c'était son impuissance. Se sentir des bras vigoureux et ne pouvoir les employer à venir en aide aux êtres qui vous sont si chers et qui souffrent, amer supplice. Il s'abîmait dans cette torture jusqu'à ce que l'épuisement vînt et que son hébétement le reprit.